son.
Cette machine, c'est celle qui changera le plus notre vie dans l'avenir.
C'est pour aujourd'hui ou pour demain ?
Qu'est-ce qui a changé ?
Troisième numéro de la saison estivale, durant laquelle nous nous penchons sur les conséquences de la révolution numérique sur notre quotidien. Samedi dernier, nous parlions de tourisme connecté et aujourd'hui, nous nous intéressons à un thème plus large, l'e-commerce, autrement dit, le commerce électronique. Entre janvier et mars dernier, nous étions 35,5 millions d'internautes, soit près de 4 sur 5 à faire des achats en ligne. Les ventes sur Internet ont pesé près de 65 milliards en 2015, soit 15% de plus que l'année précédente, et elles représentent 7% du commerce de détail. 20 ans après l'apparition dans des tout premiers sites et 16 ans après le débarquement en France du géant américain du e-commerce Amazon, nos comportements d'achat ont radicalement changé. Comment les nouvelles technologies les ont-elles modifiées ? Quelle place laissons-nous aux vrais magasins par rapport aux écrans de nos ordinateurs et smartphones ? Internet détruit-il ou favorise-t-il la proximité que nous pouvons avoir avec les commerçants, voire avec les producteurs ? C'est ce que nous allons demander à nos invités aujourd'hui. Marc L'Olivier, directeur général de la Fédération e-commerce et vente à distance, qui réunit les principaux grands opérateurs du secteur. Bonjour Marc.
Bonjour.
Et puis à vos côtés, Stéphane Drouet, fondateur et dirigeant des Poireaux de Marguerite et du comptoir du Carreau, deux structures qui misent sur un lien avec les producteurs. Bonjour Stéphane.
Bonjour Didier.
Et nous entendrons Damien Leloup, journaliste du quotidien Le Monde, qui est partenaire de l'émission. Allez, rangez vos cartes de crédit, votre panier, c'est parti pour une heure d'exposition au monde médiatique.
France Inter, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ?
C'est pour aujourd'hui ou pour demain ?
Didier Siamour.
Et pour débuter à la cool, Damien Leloup, journaliste du Monde, spécialiste de la révolution numérique, puisqu'il s'occupe de la rubrique Pixel, hein, partenaire de l'émission. Eh bien, quand on lui demande à Damien de parler d'e-commerce, il pense à une catégorie pour laquelle tout roule, ou presque.
En matière d'e-commerce, tous les commerçants ne sont pas logés à la même enseigne. Alors, je ne vais pas vous parler des libraires indépendants qui font de la résistance face à Amazon. Il y a une autre catégorie de petits revendeurs indépendants qui a encaissé de plein fouet le développement du commerce électronique, ce sont les dealers.
Ah bah voilà.
Depuis plusieurs années, on trouve assez facilement toutes sortes de drogues en ligne sur ce qu'on appelle le Darknet. Donc le Darknet, ce sont des sites qui ne sont pas indexés dans les moteurs de recherche. Pour y accéder, il faut utiliser un navigateur spécifique et anonyme, et surtout, il faut connaître l'adresse. Cette adresse, elle circule de consommateur en consommateur, où on la trouve aussi sur des forums spécialisés. Alors pour le reste, c'est de l'e-commerce très très classique. Hein. On choisit sa commande, on met les produits dans son panier, on choisit son mode de livraison et on paye. Alors on paye en bitcoins par contre. C'est une monnaie dématérialisée réputée anonyme. C'est simple, le système fonctionne bien, c'est efficace, il n'y a pas besoin d'aller traîner tard le soir dans un quartier douteux, et du coup ça marche. On estime qu'environ 10% des consommateurs de drogue ont recours à des plateformes de vente en ligne.
Mais alors, comment les autorités voient-elles ce phénomène ?
Alors, sans surprise, elles ne le voient pas d'un très bon œil, on les comprend. Ces dernières années, elles se sont beaucoup intéressées aux revendeurs en ligne, qui ne sont pas si protégés par l'anonymat du Darknet qu'ils voulaient bien le croire, mais elles se sont aussi intéressées aux consommateurs. En matière d'e-commerce, de stupéfiants, la logistique du dernier kilomètre, ça compte. Beaucoup de consommateurs ont eu la mauvaise surprise de voir débarquer la police chez eux parce que le colis avait tout simplement été intercepté à la poste. C'est un peu la limite du système, Didier. Vous avez beau être anonyme quand vous commandez, il faut bien donner une adresse pour la livraison.
Ouais.
Alors, en plus, sur ces services de vente par définition illégaux, la protection du consommateur, c'est quelque chose d'encore assez balbutiant. Hein. Si la qualité des produits est notée par les utilisateurs, comme sur toutes les plateformes classiques, le client n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise, problème de livraison, arnaque pure et simple, voire fermeture totale du site. C'est ce qui s'est passé en 2013 lorsque Silk Road, qui était un énorme site surnommé l'eBay de la drogue, a été fermé par le FBI. Toutes les commandes en cours ont bien évidemment été annulées.
Mais alors est-ce que tout le business a basculé dans le numérique ?
Non Didier, c'est un peu comme les librairies de quartier. Alors il y a des dealers de proximité qui voient d'un mauvais œil cette numérisation du business, et il y en a d'autres qui se lancent. Parce que dans cet univers ultra concurrentiel, les petits revendeurs aussi ont besoin de diversifier leurs canaux de distribution. Du coup, il n'est pas rare de voir de jeunes entrepreneurs qui gèrent à la fois une boutique physique et une boutique en ligne, avec tous les problèmes de logistique que cela suppose. Mais que les entrepreneurs en herbe dépassés par les évolutions du métier se rassurent. il existe un service gratuit qui leur proposera du conseil de qualité et qui prêtera toujours une oreille attentive à leurs problèmes, que ce soit avec leurs fournisseurs ou avec leurs clients, et qui saura aussi analyser jusque dans les moindres détails leur business plan. Alors, je vous donne l'adresse pour tous nos auditeurs qui seraient intéressés, c'est sur douane.gouv.fr.
Eh bien, écoutez, on retient l'adresse. Merci pour le tuyau, Damien.
J'ai choisi de ne pas choisir la vie. Il n'y a pas de raison. On n'a pas besoin de raison quand on a l'héroïne.
Alors, Marc L'Olivier, il n'y a pas d'adhérent suspect à la FEVAD, rassurez-nous, la Fédération du e-commerce et des ventes à distance, hein, des adhérents qui feraient du commerce en ligne avec des activités un peu douteuses.
Non, on est très loin du darknet. Chez nous, c'est des commerçants qui ont pignon sur web de manière tout à fait légale. Mais votre reportage montre bien, effectivement, que la révolution numérique touche tous les secteurs, tous les domaines, y compris celui de la criminalité.
Et Stéphane Drouet, vous n'avez pas été démarché par des producteurs locaux de plantations illicites, hein, pour écouler leurs marchandises sur Paris?
Non, pas du tout.
Non. Bon, alors écoutez, vous l'aurez compris, hein, chez nos invités, pas d'Easy Money, titre de la chanson de Kerenan, tiré de son dernier album.
C'est pas du tout ma taille.
Bon, attends, faites.
Retourne tes poches de pantalon. Dans le futur, tous les jeunes portent leurs pantalons à l'envers. La casquette, fais voir. Parfait.
I heard you've been back, you've been wondering the avenue.
Amour sur France Inter, c'est pour aujourd'hui ou pour demain?
Ce qui caractérise le magasin d'aujourd'hui prépare celui de l'avenir, c'est sa soumission à l'architecte, au décorateur, à l'esthéticien industriel. Tout est calculé pour mieux présenter, pour mieux vendre, pour supprimer l'étagère lointaine, pour supprimer tout intermédiaire entre l'objet à vendre et le client possible. Le commerce y perd en pittoresque ce qu'il gagne en efficacité. Que pense le client ? Tant qu'on lui permet encore de penser. Sollicité là-bas par les cris des marchands, fasciné ici par de savantes mises en scène, a-t-il vraiment une opinion?
Eh bien, parce qu'on a tout sous la main, on est habitué, on est seul avec sa pensée, et on n'est pas influencé ni pour une chose ni pour une autre. On n'a personne qui vous pousse, on prend tout son temps.
Le libre service ne satisfait pas tout à fait. En ce sens. Des fois, on ne trouve pas toujours la marchandise que l'on veut.
Oh non. Le moderne, ben, moi, je ne trouve pas que ça satisfait beaucoup.
Et il y a 55 ans, hein, l'apparition des premiers centres commerciaux déclenchait des réactions très paradoxales dans la population française. Les réticences sont tombées depuis bien longtemps, la France étant un des pays recordman du monde par son nombre de super et d'hypermarchés par habitant. Alors, avec le 21e siècle, la création ou l'arrivée des premiers sites marchands n'a pas suscité les mêmes réserves. Pourtant, peu croyaient que les commerçants vendant uniquement via Internet arriveraient à s'installer aussi fortement. Rappelons-nous en 2000 le débarquement d'Amazon qui vendait alors des livres, des CD et des DVD.
La Fnac est sereine et pour cause. Amazon ne tient qu'à un fil. Pas de magasin, des investissements considérables pour aucune rentabilité. Difficile de rassurer les marchés financiers.
C'est d'ailleurs indispensable qu'un site internet pour nous s'appuie sur un réseau de magasins. Sinon, nous pensons que le modèle, ce qu'on appelle des purs sites internet, c'est-à-dire de ceux qui n'ont pas la chance comme nous d'avoir une marque et un réseau de magasins, nous pensons que ces modèles-là, sur le plan économique, n'ont pas forcément beaucoup d'avenir.
Pour l'instant, les libraires ne se sentent pas menacés. Fouiner, feuilleter, font encore partie du mode de consommation des Français.
Et pas beaucoup d'avenir, prédisait le dirigeant de la Fnac il y a 16 ans. Aujourd'hui, Amazon vend presque de tout et presque partout. En mai dernier, le site français d'Amazon recevait plus de 2 millions de visiteurs par jour, deux fois plus que son concurrent direct en France, Cdiscount, et trois fois plus que la Fnac. On a connu pire, hein, comme implantation sans avenir. Amazon n'est qu'un des représentants du commerce électronique, une activité qui a explosé depuis 15 ans avec des opérateurs soit à 100% sur le net, ce qu'on appelle les pure players en bon français, soit des commerçants historiques avec leurs magasins qui se sont également installés sur la toile, car ce mode de vente est devenu quand même incontournable et n'a pas fini de changer nos pratiques pour consommer. Alors pour en parler en studio avec nous, Marc Ledivier, directeur délégué de la Fédération de e-commerce et de vente à distance, la FEVAD. Marc Ledivier, il n'y a pas de règle maintenant de séparation entre ceux qui sont présents dans le monde réel, les magasins physiques, et ceux qui sont uniquement sur la toile. En fait, les frontières se sont un peu brouillées, non?
Oui, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le multicanal, c'est-à-dire à la fois des acteurs pure players qui ont longtemps dominé le marché français, hein, pendant une dizaine d'années, c'était eux qui tenaient un petit peu le haut du pavé, et puis des magasins qui progressivement se sont numérisés, se sont digitalisés, et aujourd'hui offrent ce canal internet un peu comme un service qui est offert aux clients et qui permet effectivement de rester en contact 24 heures sur 24, et qui vient compléter l'offre de canal traditionnel. Donc on est vraiment vers, aujourd'hui il y a une poussée très forte de la part des magasins parce qu'il y a une demande forte des clients de pouvoir justement choisir entre le magasin et Internet. Et ce qu'on n'avait pas compris à l'époque, c'est qu'ils demandent les deux. C'est-à-dire ils veulent à la fois avoir le magasin et l'Internet. Alors ça n'empêche pas des gros enseignes pure player de se développer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui a le vent en poupe, c'est vraiment ce multicanal, c'est-à-dire ces magasins qui permettent aussi aux clients, lorsqu'il n'a pas le temps ou lorsqu'il veut finaliser un achat, eh bien de pouvoir aller sur Internet. Donc on est vraiment passé à un commerce qui est multicanal. C'est pour ça que nous, on a publié il y a en 2010 une étude qui s'appelle 2020 la fin du e-commerce, parce qu'on pense que le e-commerce est en train de se diffuser à l'ensemble des commerçants et finalement ça fait partie intégrante du commerce.
Vous voulez dire qu'aujourd'hui le commerce électronique, c'est qu'un canal, qu'une forme du commerce en général?
Voilà, c'est un peu plus qu'une forme, c'est à la fois un canal de vente, mais c'est aussi, on pourra y revenir, quelque chose qui a profondément modifié nos manières de consommer. Hein, puisque avant, lorsque vous vouliez acheter un produit, bah, vous preniez la décision d'acheter ce produit, vous alliez en magasin et vous repartiez avec le produit. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un avant, un pendant et un après, et dans ces différentes phases-là, Internet va jouer un rôle important, soit pour la préparation de l'achat, soit pour la conclusion de l'achat. Hein, on a, en gros, les chiffres, c'est 70% des gens qui achètent en magasin qui ont été sur Internet avant, et de la même façon, il y en a 50% qui vont aller en magasin et qui ensuite achèteront sur Internet. Voilà. Et donc, Internet va jouer un rôle très important, à la fois en conseil avant l'achat, parfois pendant l'achat, c'est du commerce électronique pur, et même après l'achat, puisqu'effectivement, c'est un moyen de rester en contact avec le magasin.
Et n'oublions pas aujourd'hui que une bonne partie, 70% à peu près de la population, est équipée de smartphones. Donc ça veut dire que quand vous allez dans le magasin, dans le lieu de vente, vous êtes encore et vous restez connecté à Internet, ce qui change aussi la relation.
Voilà. Alors ça, c'est la deuxième révolution. Après le e-commerce, on a la révolution m-commerce, c'est-à-dire l'arrivée effectivement du mobile et du smartphone qui permet aux gens d'être connectés en permanence. Vous n'êtes plus obligé d'être chez vous. C'est-à-dire qu'avant, finalement, vous prépariez l'achat chez vous, et puis lorsque vous arriviez en magasin, vous déconnectiez. Aujourd'hui, Internet s'invite dans les magasins, puisque les gens, effectivement, qui sont équipés de smartphones, alors commandent, et ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est qu'on voit de plus en plus de gens qui commandent de chez eux sur le smartphone et non plus ni sur la tablette, ni sur le PC. Et puis aujourd'hui, en magasin, ils utilisent aussi plus d'un détenteur de smartphone sur deux utilise son smartphone lorsqu'il est en magasin, soit pour consulter d'autres offres, soit pour se renseigner sur le produit. Et ça modifie la relation relation avec le vendeur. Et c'est ça qui est intéressant, parce que finalement, avant, c'était le vendeur qui avait la connaissance et le client qui était un petit peu comme on est devant en rendez-vous devant un médecin. Aujourd'hui, le consommateur, il a acquis cette connaissance et ça oblige les magasins justement à se transformer pour accompagner cette digitalisation du parcours client qu'on appelle. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de vendeurs qui sont équipés de tablettes, justement, qui reprennent un petit peu la main, le contrôle sur cette relation client et qui vont pouvoir interagir avec le client sur son achat.
Alors, il y a plus de 180 000 sites marchands en France, à peu près.
Voilà, ils sont ouverts tous les demi-heures.
Voilà, et 5% d'entre eux font 85% du chiffre d'affaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a quelques-uns qui fonctionnent et la majorité qui fait de la figuration.
Non.
Comment on arrive à attirer le client quand il y a 180 000 sites?
Eh ben, justement, et c'est là où le modèle économique a beaucoup évolué, notamment à ce qu'on appelle aujourd'hui les plateformes, les marketplaces, qui permettent à des tout petits commerçants, finalement, d'avoir accès à des sites qui ont entre 1 et 2 millions de Français qui les visitent tous les jours. Et c'est la raison pour laquelle, par rapport à ce qu'on entendait tout à l'heure sur les centres commerciaux, la révolution e-commerce est une révolution qui est accessible à tous les e-commerçants qui finalement soit ont des très gros sites, soit peuvent profiter de ces gros sites effectivement pour monter leur offre sur Internet à un coût qui est sans commune mesure avec celui qu'ils auraient à dépenser pour ouvrir un magasin. Mmh. Et donc justement, ces grandes plateformes aujourd'hui permettent à des tout petits sites, des petits commerçants, des commerçants physiques, d'avoir accès à pratiquement 35 millions de Français qui consomment sur Internet.
Alors, grandes plateformes ou petites plateformes, on va le voir tout à l'heure avec Stéphane Drouet qui est avec nous en studio et qui nous racontera comment lui, il arrive à agréger aujourd'hui et à faire venir différents producteurs pour vendre leurs produits. Les nouvelles technologies sont également utilisées donc pour attirer, pour conquérir, pour séduire le client. Voici quelques exemples de méthodes développées ces dernières années tirées de reportages de France 2 et France 3.
L'objectif de notre technologie, c'est en fait d'implanter un vendeur virtuel dans le site du e-commerçant. L'idée du moment, c'est qu'on va analyser à quel moment les gens achètent un produit, puis un autre, et on va essayer de regarder statistiquement combien de fois ce genre de relation entre deux produits arrive. Si par exemple vous avez acheté un appareil photo réflexe, à quel moment vous allez acheter le trépied ? En étudiant le comportement des autres internautes, on est capable donc de déterminer quel est le produit qui va être acheté, mais aussi à quel moment il va être acheté.
Une tendance s'est beaucoup développée cette année, le trigger marketing.
Par exemple, je vais consulter un produit, je le mets au panier sur mon site internet, je n'aboutis pas vers un achat, eh bien je vais recevoir un email pour me rappeler effectivement que j'ai mis au panier ce produit et puis finalement de me rappeler qu'il est temps de l'acheter.
La technologie a déjà fait son apparition chez les tailleurs. En quelques instants, ce scanner 3D modélise votre corps pour fabriquer un costume sur mesure à partir de 400 euros. Une image en 3 dimensions apparaît sur l'écran. 200 mesures du corps sont collectées, longueur, tour de taille, mais aussi attitude, posture. Une technologie de précision indispensable pour ce tailleur high-tech. Bientôt, il ne sera même plus nécessaire de sortir de chez soi pour essayer. C'est déjà le cas pour les lunettes. Deux fois moins cher qu'en magasin.
Alors l'idée, Marc L'Olivier, c'est quoi là? C'est de mieux connaître l'internaute pour en être plus proche, pour installer justement un lien de proximité, ou tout simplement aussi de faire davantage consommer?
Bah oui, les deux. En fait, le métier du commerçant, c'est de vendre effectivement, et le fait de pouvoir personnaliser cette relation client en essayant de comprendre effectivement le parcours d'achat va vous permettre d'optimiser tout simplement votre stratégie commerciale. Donc ça, c'est pour ce qui est ce qu'on appelle la personnalisation du marketing. Hein. Plutôt que de vous envoyer des offres qui vous intéressent pas, on va essayer de comprendre ce qui vous intéresse pour vous envoyer des offres qui soient le plus adaptées par rapport au centre d'intérêt. De la même façon qu'aujourd'hui, on essaye de voir tout ce qu'on appelle les micro-moments dans le parcours d'achat. Les moments où vous hésitez, où vous cherchez quelque chose.
Et on vient faire une petite piqûre de rappel pour vous dire...
Voilà, soit une piqûre de rappel, soit vous poussez l'information dont on pense que vous allez avoir besoin à ce moment-là. Il faut savoir que sur le commerce en ligne, ce qui change terriblement la donne, c'est ce qu'on appelle le taux de transformation. C'est-à-dire qu'en magasin, à peu près un client sur deux qui rentre dans un magasin, en moyenne, achète quelque chose. Mmh. Sur le e-commerce, vous avez rappelé les taux de fréquentation qui sont très élevés. Hein, pour certains sites, c'est 2 millions de Français qui se connectent tous les jours. Mais vous avez moins de 2,5% qui achètent. C'est-à-dire sur 100 visites, il y en a 2,5% qui vont être transformés. D'où effectivement l'envie des commerçants d'essayer de comprendre, pour essayer d'améliorer ce qu'on appelle ce taux de transformation, ce taux de conversion, et effectivement de faire en sorte que le client consomme et d'avoir un parcours client qui soit le plus fluide. Ça rappelle aussi là, le reportage qu'on a écouté en début d'émission, essayer d'avoir le parcours de client qui soit le plus fluide possible, à la fois au moment de la préparation de l'achat, au moment du paiement, qui est un moment critique, et puis aussi, on essaie de raccourcir le temps de livraison.
Et alors, on vous propose souvent des choses, on vous suggère des choses sur les sites, et ça, on le fait en ayant justement analysé ce que vous disiez, votre parcours, ce que vous faites sur Internet. Et en même temps, on voit bien que les consommateurs n'ont pas envie forcément d'être pistés comme ça. Il y a un paradoxe.
Il y a un paradoxe, et c'est pas le seul d'ailleurs, on est dans le monde des paradoxes dans le e-commerce. Alors ça, c'est un point qui est très important effectivement, c'est-à-dire à mesure que vous améliorez ces outils de la connaissance client et du marketing, vous devez aussi prendre des mesures et toutes les précautions nécessaires pour faire en sorte qu'il n'y ait pas un phénomène de rejet de la part du client. Donc le tout, c'est de savoir jusqu'où vous pouvez aller, et je crois que le mieux pour les e-commerçants, c'est d'être transparent et de laisser le choix aux personnes. Il y a des personnes effectivement qui sont très sensibles à l'utilisation qui est faite de leurs données, qui veulent avoir un contrôle total. Et puis d'autres, et parfois c'est un peu générationnel, hein, qui sont beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus détendus avec ça et qui ne voient pas de problème à ce qu'on effectivement leur envoie une publicité qui correspond à peu près à ce qu'ils ont pu visiter par mois. Donc la responsabilité des sites, et c'est surtout leur intérêt, parce que vous savez, sur Internet, le concurrent est toujours à portée de clic. Ce qui a changé par rapport à avant, c'est que lorsque vous vouliez un produit, finalement vous aviez 2-3 enseignes maximum que vous alliez visiter. Aujourd'hui, vous avez une galerie marchande mondiale, et pour déplacer d'un magasin à l'autre, vous bougez la souris d'un centimètre et vous êtes chez le concurrent. Donc toujours bien comprendre les attentes des clients, et là aussi la technologie permet de le faire.
Ouais, en tout cas, on a compris que plus on est jeune, moins on a de réticence sans doute à révéler ce que l'on fait ou ce que l'on est.
Moi, je vois les gens avec des caddies, avec ces plein de produits de merde, hors de prix, c'est pas la crise, hein. Faut pas dire n'importe quoi, je peux
calmez-vous,
rencontrer...
Calmez-vous, calmez-vous, je reviens.
L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo.
Regarde à toi
et à tous ceux qui vous like. Les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag.
Regarde à toi.
Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote.
Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi.
Il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tomber du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi.
Regarde à toi.
Mais j'en connais déjà les dangers. Moi j'ai gardé mon ticket. S'il le faut, je vais les changer, moi.
Regarde à toi.
Et s'il le faut, j'irai me venger, moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter, moi.
Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi.
Un jour tu aimes, un jour tu jettes, mais un jour tu payes, un jour tu verras, on s'aimera, mais avant on crèvera tous comme des rats.
Hey.
C'est comme ça qu'on sème, c'est comme ça qu'on consomme. Stromae revisitait Carmen de Bizet à sa manière, c'est-à-dire une Carmen 21e siècle, confrontée aux nouvelles technologies.
France Inter, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ?
Et de nouvelles technologies, il en est question ce matin, donc sur France Inter, où nous nous interrogeons sur leur impact dans notre quotidien de consommateurs, d'acheteurs, après avoir évoqué les gros opérateurs du e-commerce et leur stratégie pour conquérir des clients. Posons-nous la question de ce que peuvent faire notamment en direct les producteurs. Avec Internet, rien n'empêche d'aller au plus près de la source. C'est ce qu'ont compris quelques startups comme La Ruche qui dit oui.
À la différence d'une AMAP, avec le site Internet La Ruche qui dit oui, vous choisissez vos produits à la carte. Viande, lait, œufs, fruits et légumes. Ensuite, vous allez les chercher dans l'un des 600 points de rencontre, café, restaurant par exemple. Une liberté qui plaît à Clément.
On a le choix complètement. On peut prendre 200 grammes de champignons ou 1 kilo, enfin tout ça est assez libre et assez agréable.
Et en plus, il n'y a pas d'engagement, comme l'explique Marc-David Choucroun, cofondateur du site internet.
On peut devenir membre juste pour regarder ou juste pour commander une fois, il n'y a pas d'engagement sur le long terme.
Le système, lui, a séduit Véronique et François.
Nous, ça nous dit bien d'y aller parce qu'auparavant, on achetait déjà aux producteurs directement.
L'agriculteur garde près de 85% du prix de vente, prix qu'il fixe lui-même. En 2014, le site a enregistré près de 500 000 commandes, le double par rapport à 2013.
Alors la démarche de La Ruche qui dit oui ne fait pas forcément l'unanimité. Certains critiquent son fonctionnement et notamment son recours aux auto-entrepreneurs et le prélèvement d'une commission sur les ventes. Alors il y a d'autres schémas qui existent, comme celui d'un de nos invités, Stéphane Drouet, avec les poireaux de Marguerite, une boutique dans le 11e arrondissement de Paris, puis un site de vente. C'est important pour vous de rapprocher les producteurs et les consommateurs ?
C'est même essentiel. Maintenant, les gens ont besoin de savoir ce qu'ils consomment.
Oui.
Avec tous les problèmes alimentaires qu'il y a eu ces dernières années, tous les consommateurs ont besoin vraiment d'avoir toutes les infos.
Et aujourd'hui, donc vous, même chose qu'expliquait tout à l'heure Marc-Olivier, c'est que vous avez un lieu de vente dans le 11e arrondissement et il y a aussi aujourd'hui du commerce en ligne, parallèlement, qui va permettre de commander directement aux producteurs.
Les deux sont présents parce que les gens... Tous les consommateurs ont besoin de voir, de toucher physiquement les produits avant de les commander sur Internet. Parce qu'on est dans l'alimentaire, on n'est pas dans le bouquin ou le CD.
Donc, le textile.
Voilà. C'est un produit alimentaire, on ne le renvoie pas si la taille ne va pas. Donc les gens ont besoin de voir au moins une fois comment sont les produits et ensuite ils passent par le site Internet.
Et alors, vous avez poussé la logique plus loin avec un autre projet qui a pris forme après, qui s'appelle le Comptoir du Carreau. Vous pouvez nous expliquer comment ça s'est...
Alors, le Comptoir du Carreau, en fait, c'est une plateforme qui s'est faite dans Rungis, dans le carreau des producteurs.
Donc, au marché des produits qui réunit tous les producteurs.
Qui réunit tous les producteurs d'Île-de-France. Donc, c'est une plateforme qui réunit tout ce qui est produit, travaillé, transformé d'Île-de-France et qui est au milieu de 90 maraîchers. Donc, on a une offre complète pour les professionnels. Voilà, donc on fournit des restaurants, des magasins, des traiteurs, voilà. C'est le tout début, mais déjà c'est trop petit.
C'est-à-dire, vous avez aujourd'hui combien de producteurs qui passent par le carreau et combien de...
On a à peu près 80 producteurs en produits transformés, travaillés, et à peu près 90 maraîchers. Mais au niveau de la demande, on est déjà dépassé, quoi.
Et alors, Marc-Olivier, pour la FEVAD, donc vous estimez qu'il y a, vous disiez qu'il y avait un décalage entre les aspirations du public et les comportements d'achat, parfois, pour les comportements d'achat qui iraient directement chez le producteur.
Oui, un des phénomènes les plus marquants de ces deux dernières années en matière de e-commerce, c'est vraiment l'explosion du collaboratif, de ce qu'on appelle le social commerce aujourd'hui. Il y a une attente très forte des Français, on avait rarement vu une évolution aussi rapide. Il y a 40% aujourd'hui des cyberacheteurs qui utilisent déjà ce type d'achat collaboratif, qui est aussi une autre façon de consommer, et 60% qui souhaitent le faire en 2016. Et lorsqu'on les interroge sur ce qu'ils aiment, quels sont les secteurs, quels sont les produits et services qu'ils utilisent et qu'ils souhaiteraient l'utiliser, c'est en premier tout ce qui est hébergement, donc les plateformes qu'on connaît bien, qui font de la location.
Voilà, les Airbnb et voilà. Autres. Ouais.
Et puis le covoiturage, bien sûr, mais aussi l'achat en direct auprès des producteurs. Il y a une demande qui est très très forte. Est-ce que montrent les études qu'on a réalisées avec CSA, c'est qu'effectivement, l'offre n'est pas encore assez développée.
Il y aura à peu près 32%, je crois,
c'est
de
ça,
gens
30,
qui sont favorables.
C'est ça, 32% de gens qui sont favorables.
Et combien le font réellement ?
9%.
9%, voilà. Ouais.
Et comme c'est une étude qu'on suit chaque année, on voit bien qu'effectivement, il y a des efforts à faire, et je pense que l'initiative de Stéphane est très intéressante. Je crois que les pouvoirs publics devraient aussi se saisir de ce dossier-là, parce qu'il faut encourager, effectivement. C'est ce que je disais, le e-commerce, c'est vraiment le commerce pour tous. C'est-à-dire que même des producteurs, aujourd'hui, peuvent vendre en direct, alors par l'intermédiaire de sites e-commerce. Et donc là, c'est une opportunité, une porte qui est ouverte, qui est très intéressante et qu'il faudrait développer.
Stéphane, vous pensez aujourd'hui, dans l'échange que vous avez par exemple avec les internautes, vous me disiez quand même que c'est difficile parce que ça prend du temps, il faut pouvoir aussi gérer et la boutique et les internautes.
Il faut une personne à part entière qui s'occupe vraiment que du site internet, voire plusieurs. Ça, c'est, je pense que tous les sites e-commerce font ça. Nous, au départ, c'était pas trop le but, c'était plutôt d'ouvrir des magasins producteurs, que les gens puissent avoir accès directement. Et c'est vrai qu'il y a eu une grosse demande pour le site e-commerce, surtout pour les livraisons à domicile, dans des villes comme Paris, parce que les gens n'ont pas le temps, finissent tard, ils veulent quand même avoir des bons produits, ils veulent savoir d'où ça vient, ils veulent toute une traçabilité. Et je pense que au niveau e-commerce, on est vraiment à 1% de ce qu'on pourrait faire.
Quoi. D'accord. Alors on se rend compte en tout cas que l'Internet qu'on assimile souvent au global, en fait, est aussi une opportunité pour le local. Illustration des vertus du local ou du collaboratif, et du collaboratif, comme vous le disiez tout à l'heure, Marc-Olivier, avec C4Good, une start-up que nous avons rencontrée fin juin lors du salon parisien Viva Technologies.
C'est un site web et mobile qui permet de trouver autour de soi les commerces locaux, responsables. Ils s'engagent à déclarer, on a une charte, des engagements donc dans du zéro déchet, dans des produits bio, éthiques, des circuits courts. Et chez chacun de ces acteurs, on peut bénéficier de bons plans, donc de réduction, notamment des bons plans flash qui permettent de réduire le gaspillage alimentaire en vendant à temps les produits des commerçants à prix réduit. C'est quelque chose qu'on peut activer. Je vois qu'on passe à côté d'un commerçant responsable. On peut recevoir une notification pour aller plus consommer chez lui. On prend sa carte de membre et on est implanté très localement. On raisonne vraiment de manière écosystémique. 50% de la population environ se déclare comme éco-responsable, majoritairement donc urbain, et qui cherche à se détacher des modes de consommation industrielle qui vont fondamentalement dans le même sens, celui d'une société plus solidaire, mais aujourd'hui ils font chacun de leur côté.
C'est un peu la population que vous avez dans votre boutique et sur le commerce en ligne.
Exactement.
Stéphane. Oui.
Voilà, donc on a de plus en plus de gens qui sont responsables ou qui se rendent responsables, et ça touche tous les âges et toutes les catégories sociales. On a de jeunes étudiants qui n'ont pas forcément de moyens, mais on a aussi des gens qui sont cadres. Et c'est vrai que tout le monde vient maintenant acheter des produits locaux, mais aussi on a tout le retour derrière. C'est-à-dire qu'ils viennent nous ramener des fois des déchets pour faire du compost, parce qu'on a une ou deux associations comme ça qui viennent chercher les produits qui sont abîmés, soit pour les retravailler et les donner à des associations caritatives, soit pour en faire du compost. Et c'est vraiment un engouement terrible, parce que moi je vois monter ça vraiment depuis un an.
Et Marc-Olivier, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe aujourd'hui où on voit, vous le rappeliez tout à l'heure, l'objectif des commerçants c'est quand même de vendre, de faire du commerce, et puis on voit aujourd'hui qu'il y a des démarches qui sont, il faut peut-être vendre moins ou vendre différemment. Il n'y a pas des objectifs qui sont un peu paradoxaux ?
Non, les consommateurs doivent écouter leurs clients, et il y a une évolution des attentes des clients par rapport à ça. On ne peut pas dissocier Internet et même le e-commerce des phénomènes de communauté. Vous savez, on le voit avec les réseaux sociaux, on le voit dans un certain nombre de démarches. Aujourd'hui, les consommateurs ont la parole, ils peuvent communiquer entre eux, ils peuvent aussi s'organiser entre eux. Les commerçants le savent bien, il y a tout ce qu'on appelle aussi la e-réputation, puisqu'ils sont notés en permanence par les commerçants, par les consommateurs. Et les consommateurs, effectivement, aspirent aujourd'hui à ces nouvelles formes de consommation, qui sont plus dans l'environnement, dans la consommation durable. Et les marchands doivent s'adapter à cela. Et on voit nous-mêmes des sites marchands traditionnels qui se lancent dans le collaboratif, justement, pour répondre à cette nouvelle aspiration de leur clientèle.
Alors, autre aspiration de la clientèle, c'est ce qu'on appelle la personnalisation. Avec les nouvelles technologies, le commerce a pris le virage même de la personnalisation de masse, un virage qui pourrait s'accentuer avec l'imprimante 3D.
Les technologies d'impression 3D ont cette particulier qu'on peut fabriquer des objets tous uniques. C'est-à-dire que ça ne coûte pas plus cher de fabriquer des objets différents que de fabriquer des objets vraiment tous identiques.
Et donc plus besoin de faire fabriquer en masse à l'étranger, en Chine par exemple. Selon certains économistes, de nombreuses productions pourraient être relocalisées, et c'est tout le système économique mondial qui serait bouleversé. Localement, nos habitudes aussi pourraient évoluer avec de nouveaux types d'emplois créés.
Vous allez avoir aussi l'apparition d'un nouveau métier d'artisan 2.0, qui vont vous proposer chez eux, localement, de fabriquer un couteau, de fabriquer un objet, de fabriquer une maison.
Alors, est-ce que l'avenir du commerce en ligne est dans cette innovation ? Je commande ce dont j'ai besoin avec un fichier numérique qui va me permettre de fabriquer une pièce, et je vais la chercher chez un artisan imprimeur 3D.
C'est quelque chose qui va se développer, mais il faut effectivement encore que la technologie progresse. Aujourd'hui, on est plutôt sur les usages un peu B2B, hein, c'est-à-dire pour des professionnels qui fabriquent des pièces détachées, ce genre de choses-là. Mais c'est clair que lorsque la technologie sera au point, il faudra encore attendre un petit peu, c'est quelque chose qui va se développer. Parce que c'est vrai que, à nouveau, hein, le choix du e-commerce, souvent, il a été assimilé au prix. On disait c'est les chasseurs de prix, c'est les gens qui veulent des prix plus bas. Aujourd'hui, c'est beaucoup assimilé au service et à la praticité. Et c'est vrai que si vous avez un objet fonctionnel que vous pouvez vous n'avez pas besoin de vous déplacer en magasin, et de ce point de vue-là, l'imprimante à domicile peut jouer un rôle important et c'est quelque chose que les e-commerçants aujourd'hui regardent, même si ce n'est pas dans le court terme.
Alors Stéphane Drouet, vous qui misez sur le local, alors sur les producteurs, on l'a compris, pour l'instant les imprimantes 3D avant qu'ils nous impriment des fruits et légumes, on risque d'avoir encore un peu de temps, en tout cas on va le souhaiter, mais est-ce que ça veut dire également, pourquoi pas chez vous à terme, une imprimante 3D qui va servir, je ne sais pas, à faire les bouteilles, les bouteilles, les flacons par exemple?
Je pense que c'est indispensable parce que c'est vrai qu'on consomme tellement d'emballage, ça coûte beaucoup d'argent, beaucoup de temps et beaucoup de pollution à tout le monde. C'est peut-être ça justement qu'il faudrait appuyer sur les gros industriels, il faudrait peut-être être un peu plus serré avec eux parce que c'est quand même ça qui pollue le plus. Mmh. Hein, quand on fait de l'emballage, surtout ancré, c'est des produits qu'on trouve dans la nature tout le temps. C'est pas forcément le sac plastique le plus polluant, c'est surtout l'encre qu'on utilise sur tous les produits.
Alors la question quand même qui se pose, c'est derrière cette notion, vous parliez Marc-Olivier de service justement, avec l'imprimante 3D, on peut se poser la question, est-ce que c'est pas le futur de la distribution? On est allé interroger Romain Pouzol, qui est l'un des fondateurs d'une start-up qui s'appelle CECAB, spécialisée dans l'imprimante 3D.
L'imprimante 3D, c'est juste de l'empilement de matière. En un sens, quand on construit une maison, on y va brique après brique. Les particuliers n'ont pas de vocation à avoir des machines, à mon sens, chez eux. Ils ont peut-être beaucoup plus vocation à tirer parti de l'impression 3D par des intermédiaires. Donc ça veut dire pouvoir avoir la capacité de personnaliser des objets lorsqu'ils les commandent sur Internet. On va pouvoir créer des produits uniques à moindre frais. Je pense que ce sont surtout les usages qui vont être amenés à évoluer. Donc de consommer peut-être moins, mais mieux. Dans l'obsolescence programmée, par exemple, si on a la capacité de pouvoir produire des pièces à la demande, ça veut dire qu'on peut produire et reproduire des pièces détachées pour des produits qui sont hors catalogue depuis des années.
On ne va pas, avec cette perspective, quand même casser un peu le modèle de ce qu'on connaît jusqu'à maintenant. Il y a un excellent livre d'ailleurs qui s'appelle Bienvenue dans le capitalisme 3.0 là, de Philippe Escande et Sandrine Cassini, deux journalistes, qui expliquaient que c'est la prochaine révolution. C'est la prochaine révolution où on va avoir la suppression quasiment des sites de production, des usines de production. Marc-Olivier, comment vous analysez cette perspective?
Je pense que c'est effectivement une évolution majeure qui va se produire. Après, je crois qu'il ne faut pas voir toujours des phénomènes de substitution. On a dit que le e-commerce va faire disparaître les magasins physiques. Non, les magasins physiques se sont adaptés et ils sont là.
Et on se rend compte d'ailleurs même que les opérateurs du commerce en ligne ont fabriqué eux-mêmes, ont construit leur propre boutique réelle.
Exactement. Et c'est une demande, c'est ce qu'on voit des stratégies de beaucoup de pure players qui font leur magasin effectivement parce qu'il y a une demande. Donc je pense que tout ça va être intégré par le commerce. Ça sera une autre manière de consommer qui va effectivement se développer dans le temps, mais qui ne va pas remplacer effectivement les magasins et les vendeurs traditionnels, sauf que les vendeurs traditionnels intégreront, puisque c'est pareil sur Internet, vous avez toujours des magasins qui fonctionnent très bien, les gens vont aussi en magasin, et ce sont les mêmes qui achètent sur Internet, et ce sont les mêmes qui utiliseront effectivement ces nouvelles technologies du futur. Donc on est plus dans la complémentarité, dans l'évolution, de l'adaptation, que sur un phénomène de substitution qui ferait qu'effectivement le magasin disparaîtrait totalement au profit du magasin à domicile qui recréerait le produit.
Oui, et on entendait en plus tout à l'heure parler peut-être d'un nouveau métier, d'artisan imprimeur 3D, ça veut dire également que on sait très bien que l'imprimante 3D, elle va pas assembler un objet déjà, elle va fabriquer pièce par pièce et il faudra aussi de nouveaux métiers pour assembler.
Oui, et puis il faudra aussi aller acheter des fruits frais, etc. Donc il y aura certainement des produits que la machine ne réussira pas à faire. Et puis il y a les magasins sont aussi de plus en plus des lieux de vie. C'est-à-dire qu'avant, c'est pas simplement un endroit où on va pour acheter, c'est aussi un magasin où on va pour passer un moment. Et donc la relation humaine, la scénarisation de l'offre joue un rôle très important. Et donc ça fait évoluer aussi notre manière de consommer en magasin.
Stéphane Drouet, avec les poireaux de Marguerite, votre boutique, et on l'a vu avec le carreau aussi, qui est une plateforme pour les producteurs. Comment vous voyez évoluer votre modèle pour les années qui viennent?
On a une demande vraiment très importante. On nous demande de nous installer partout, dans tous les arrondissements de Paris, en banlieue, en province, parce que les gens ont besoin justement de ce contact physique, au moins dans l'alimentaire. Ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin de parler. Le côté grande surface où on rentre et la dernière personne qu'on voit et la seule qu'on voit, c'est la caissière à la fin. Ça, ils en veulent plus. C'est fini.
On revient un peu à l'archive qu'on écoutait tout à l'heure.
Voilà. On revient aux années 60, avant les grandes surfaces. Ouais. Et je pense que les gens ont vraiment besoin de ça.
Donc ça veut dire que développement du commerce en ligne d'un côté et d'un côté, côté un rapport...
Les deux sont complémentaires de toute façon, je pense.
Simplement, il faut s'adapter, ce qui est important effectivement, et ça change aussi, les vendeurs ont un rôle capital, et finalement on s'aperçoit que le e-commerce, c'est le paradoxe, a mis le vendeur au centre du dispositif, parce que c'est cette relation humaine que les gens vont chercher en magasin.
Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteaux.
Malgré sa courte histoire, l'ère numérique est déjà jalonnée d'objets à un moment décrit comme à la pointe de la technologie et qui nous ont fait envie avant d'être dépassés, jugés dépassés et abandonnés. Aujourd'hui, un montage d'archives sur l'objet qui nous a éduqués, on va dire, au SMS, ce que l'on a appelé Messenger, Pager ou Beeper.
Ils ont pour nom Tatou, Tamtam ou Kobi, la nouvelle génération de messagerie portable a de plus en plus de succès. La plupart de ces appareils sont vendus sans abonnement. Avantage, ils sont fiables et en tout cas plus économiques qu'un téléphone.
Tatou, Tamtam, Kobi, les radios messagers de poche ont envahi les écoles et les problèmes commencent. Ces appareils perturbent de plus en plus le bon déroulement des cours.
Votre message 1-9-9 est envoyé à votre correspondant.
Et voilà, Tatou, c'est tout, sauf de long discours.
Ma mère me l'a acheté parce qu'elle voulait toujours savoir où je suis. Et aussi pour mes copains, tout ça.
Autre cause d'exaspération chez les professeurs, les sonneries des messagers pendant les cours, ou plus grave encore, la fraude. En plein examen, certains élèves se font envoyer une formule de mathématiques ou une définition via leur pager.
On peut passer son temps à chercher sa tribu.
On peut tout de même en sourire. Une fois qu'on s'est habitué, on ne peut plus s'en passer.
C'est comme une drogue.
On peut aussi trouver sa tribu tout de suite.
Ce jeune homme, lui, n'a pas du tout de téléphone. Il veut pouvoir être joignable par ses parents de Reims. Eh bien, c'est raté.
Il m'a dit que c'était pas valable sur Reims, donc là, il y a un petit problème, il faut que je réfléchisse. Quoi. C'est valable uniquement sur Paris, la Méditerranée et Nord-Pas-de-Calais.
Tatou, votre tribu garde le contact avec vous.
À partir de 490 francs et sans abonnement.
Autre grand succès de ces fêtes, les Tam-Tam, Tatou et autres messageries numériques. Les constructeurs étaient même en rupture de stock quelques jours avant Noël. Le téléphone portable, mode ou nécessité, chacun y voit son intérêt.
C'est mon mari qui l'a, pour des raisons professionnelles. Mais je trouve ça complètement idiot.
Tatou, votre tribu garde le contact avec vous.
Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois.
Les services, les réseaux de radio-messagerie ont été abandonnés pour le grand public. En tout cas, il subsiste encore quand même quelques services utilisés à des fins professionnelles. Marc L'Olivier, vous aviez été propriétaire d'un pager? Vous avez détenu un pager dans les années 90?
J'ai dû avoir ça et je m'en souvenais même plus jusqu'à ce que vous me le rappeliez.
Oui.
Mais je pense que ça dit deux choses. D'abord... Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de cadavres dans les placards du web de zéro. Mais en même temps, on voit bien cette tendance à être connecté en permanence c'est ce qu'essayaient de faire ces objets-là. C'est réalisé avec d'autres objets. La deuxième chose que ça inspire, c'est aussi, il faut jamais oublier qu'on est dans un monde globalisé. Et que du coup, c'est vrai que les inventions qui sont nationales, qui tiennent pas compte de cette mondialisation, souvent sont très vite dépassées. Et c'était un petit peu le cas de ces outils-là, qui étaient souvent des solutions offertes par les opérateurs locaux. Et aujourd'hui, on voit effectivement que toutes les solutions qui permettent vraiment d'être connectées H24 sont des solutions qui sont globales, qui s'appliquent à l'ensemble de la planète.
Stéphane Drouet, vous avez eu votre pager, votre
beeper? J'ai eu un
Tatou. Ouais.
Dans les années, c'était fin des années 90, ouais.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'était pas très efficace. Enfin, disons que ça a duré très peu de temps, quoi.
Ouais. Et qu'est-ce que ça signifie pour vous, comme ça, quand on voit des objets qui apparaissent, qui disparaissent? Vous qui vous inscrivez, on va dire, dans une démarche qui essaie d'être un peu plus pérenne pour travailler justement dans la durée?
Bah, Malheureusement, je pense qu'on est obligé de passer par là pour arriver à quelque chose, mais c'est dommage de gaspiller, d'utiliser autant de matériel, de polluer comme ça partout. Mais bon, on est dans un monde qui se transforme vraiment tout le temps, tous les jours. Moi, je le vois d'une année sur l'autre avec mes enfants, par exemple, ça va à une vitesse incroyable, quoi.
Ouais. Bon. Merci en tout cas à vous deux, Marc-Olivier, donc directeur délégué de la Fédération e-commerce et vente à distance, qu'on appelle la FEVAD, hein, qui réunit les grands opérateurs du secteur, et Stéphane Drouet, donc fondateur et dirigeant des Poireaux de Marguerite, une boutique dans le 11e, et du Comptoir du Carreau, une structure sur le marché de Rungis, donc qui travaille avec les producteurs franciliens. Merci également à Damien Leloup, journaliste responsable de la rubrique Pixel du Monde, partenaire de l'émission, et à Cap Digital, le pôle compétitivité de la transformation numérique, dont les équipes ont collaboré à la préparation du magazine. On se quitte sur la musique de David Carbonara, composée pour Mad Men, la série américaine qui nous a fait découvrir les changements de la société américaine dans les années 60, hein, le modèle de la société de consommation. C'est fini pour aujourd'hui et pas pour demain, ou du moins c'est fini jusqu'à samedi prochain, jour où on parlera de notre rapport à la sexualité sous l'influence des nouvelles technologies. D'ici là, vous pouvez nous réécouter sur franceinter.fr. L'émission a été réalisée par Hélène Biziot avec l'aide aujourd'hui de Julien Michel à la technique. Elle a été préparée par Léa Dupuyenka et Béatrix Moreau et mise en musique par Thierry Dupin. Bon week-end à tous. Pensez à vous déconnecter, mais restez branchés sur France Inter.